Au moins un dimanche dans l'année, nous parlons du thème de la souffrance dans la vie chrétienne. Les témoignages que nous entendons sont poignants, et peut-être que ça a créé une certaine atmosphère un peu lourde après avoir entendu cela. La vidéo que nous venons de voir nous rappelle la réalité de la persécution pour bon nombre de nos frères et sœurs dans le monde, à cause de la foi en Christ. Et nous avons encore cette grâce de ne pas vivre de telles situations, mais nous ne connaissons pas l'avenir, ni même où nous serons, où Dieu nous appellera. Peut-être dans un de ces pays où la persécution sévit. Et d'ailleurs, si vous deviez écrire une lettre à ces frères et sœurs persécutés, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les encourager? Qu'est-ce que vous pourriez leur rappeler alors qu'ils perdent parfois tout en suivant Jésus? Il se peut, comme cela arrive, que devant la détresse et la souffrance de l'autre, nous ne sachions pas quoi dire. Nous ne sachions pas quoi dire pour encourager celui ou celle qui souffre. Mais heureusement, Dieu n'est pas resté dans le silence. Et nous avons bien dans sa parole l'exemple d'une telle lettre adressée à des chrétiens qui sont éprouvés. L'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit une lettre aux chrétiens qui vivaient en Asie mineure, l'actuelle Turquie, et qui avaient une vie bien difficile à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et je vous propose que nous puissions lire ensemble le début de cette lettre dans 1 Pierre chapitre 1, les versets 1 à 9. Si vous avez vos Bibles, le texte ne sera pas affiché, de pouvoir suivre la lecture de ce texte, le début de cette lettre, dans 1 Pierre chapitre 1, les 9 premiers versets. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous, dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour ? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut, qui est le but de votre foi. L'intention de Pierre est déjà perceptible dans le début de cette lettre. Il veut encourager ses frères et sœurs à tenir bon dans leur foi au milieu des épreuves qu'ils peuvent connaître. Pierre leur rappelle qu'ils sont bénis par Dieu et qu'ils ont une espérance vivante. Et vous notez que ces chrétiens éprouvés étaient malgré tout remplis de joie. Malgré leurs épreuves, d'après le témoignage de Pierre, ils étaient remplis de joie à cause de leur salut, à cause de leur sauveur. Et toutefois, la persécution était une réalité, et peut-être pour certains, une réalité au quotidien. Dans notre texte, suivre Christ, cela signifie être prêt à passer par l'épreuve du feu. Mais avant d'en venir à ce thème de l'épreuve, regardons ensemble les premiers versets. Avant de parler d'épreuve, Pierre commence par dire à ces chrétiens d'Asie mineure combien ils sont bénis, eux que Dieu a choisis. Certes, ils sont étrangers, c'est ce que nous voyons au premier verset, et historiquement, on sait par exemple que l'empereur Claude, à cette époque, avait déplacé des populations pour vivre en Asie mineure. Donc des populations, vous le comprenez bien, qui étaient là peut-être contre leur gré. Donc étrangers en Asie mineure. Et peut-être que parmi eux, des chrétiens, effectivement, n'étaient pas là par choix, mais parce qu'on les a déportés ici. Et donc Pierre s'adresse à ces chrétiens qui sont dispersés dans les cinq provinces romaines qui vous sont citées au verset 1. Mais s'ils sont chrétiens, c'est parce que Dieu les a choisis. Cela faisait partie de son plan. Cela faisait partie de son dessein parfait. Et comme nous le voyons au verset 2, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont joué un rôle dans le salut de ses croyants. C'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui joue ce rôle dans le salut des croyants, et donc aussi dans notre salut. Non seulement cela, mais Pierre poursuit en adressant une louange à Dieu, selon une formule classique dans le judaïsme, « Béni soit Dieu ». Mais puisque Pierre s'adresse à des chrétiens, eh bien il ajoute « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Jamais un juif ne dirait cela. Jamais un juif ne dirait que Dieu est le Père de Jésus-Christ. Parce que ce serait admettre que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ici, Pierre s'adresse à des chrétiens, lui-même étant chrétien, et il leur dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et avant de parler d'épreuves, Pierre oriente le regard de ses destinataires vers celui qui est intervenu pour leur salut. Et il liste trois bénédictions qu'il est bon, il me semble, encore cet après-midi de nous rappeler. Parce qu'en réalité, tout croyant est concerné par ce que Pierre écrit ici. Premièrement, en verset 3, Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle. Ce que nous appelons en théologie la régénération. Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle. Dieu a changé notre cœur. Et cela une fois pour toutes. Si nous disons que nous sommes chrétiens, que nous nous sommes convertis, eh bien notre cœur a changé une fois pour toutes. Dieu n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait, et comme vous le lisez au verset 3, dans sa grande compassion. Dans sa grande compassion, Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle. Deuxième bénédiction, au verset 3, toujours, nous avons une espérance vivante. Si vous vous souvenez encore, pour celles et ceux qui étaient là, nous avons beaucoup parlé de cette espérance l'année dernière, de la certitude que nous avons au sujet de ce que Dieu tient en réserve pour nous. Un avenir glorieux à ses côtés et pour toujours. Telle est notre espérance, une espérance vivante. Et troisièmement, troisième bénédiction, verset 4, mais en fait qui est très lié à ce que je viens de dire, verset 4, Dieu nous réserve un héritage. Cet héritage que rien ni personne ne peut nous ôter. Un héritage intouchable, gardé par Dieu, réservé pour vous et pour moi. Et ça fait crier les bébés. Et nous avons raison d'affirmer que nous sommes déjà sauvés. Depuis le jour où nous avons placé notre confiance en Dieu, Depuis ce jour où nous avons tourné le dos à notre vie passée sans Dieu pour vivre désormais pour Dieu. Oui, depuis ce jour-là, nous pouvons dire « oui, nous sommes sauvés ». Et je pense que nous n'avons pas d'hésitation à le dire. Mais il est vrai aussi que notre salut est une réalité à venir, que notre libération n'est pas encore totale. Le péché, la mort n'ont pas encore disparu de ce monde. Et ça, je pense que vous le constatez très bien. Bien que le péché et la mort soient déjà vaincus par Christ. Mais ça n'a pas encore disparu. Donc, notre libération n'est pas encore totale. Il y a encore un salut à venir, un salut que nous attendons. Mais voyez dans notre texte quelle est l'assurance que nous avons en commun avec les destinataires de Pierre. Verset 5. « Vous qu'il, c'est-à-dire Dieu, garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. » Dieu qui nous garde dans sa puissance au moyen de la foi en vue du salut à venir. Et je préfère le dire ouvertement, je ne crois pas que le salut puisse se perdre. Notamment à cause de ce verset. Si Dieu nous garde, est-ce que Dieu peut échouer dans cette mission? Si ces mots étaient destinés à encourager les chrétiens éprouvés à cause de leur foi, en quoi peuvent-ils aussi t'encourager en ce moment? Est-ce qu'au milieu de nos inquiétudes, de nos soucis du quotidien, nous avons une place pour nous émerveiller de nouveau? Une place pour penser à la grâce de Dieu envers nous, à sa grande compassion. Est-ce qu'au milieu de tout ce qui peut surcharger notre tête et nos pensées, il y a de la place encore pour que nous puissions nous émerveiller devant la grâce de Dieu? Oui, cet après-midi, nous parlons de tout cela ensemble. Mais est-ce que nous y penserons durant la semaine qui vient? Que provoque chez vous, chez nous, l'expression « espérance vivante » ? Qu'est-ce que cette expression « espérance vivante » provoque chez nous, dans notre contexte où les médias nous submergent de mauvaises nouvelles quant à l'avenir ? Christ ressuscité, voilà ce qui nous donne de l'espérance et la certitude de notre salut. Christ ressuscité, c'est ce qui nous donne de l'espérance et la certitude de notre salut. Non pas en fonction de ce que j'ai accompli, mais en fonction de ce que Christ a accompli. Lui qui est allé jusqu'au bout. Et il nous faut encore le redire. Lui qui est allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix, pour mourir à notre place, pour être puni, châtié à notre place, alors que c'était nous, les fauteurs, les pécheurs. Christ, que Dieu a ressuscité d'entre les morts, dans sa puissance, et c'est un sauveur vivant qui intercède pour nous. Mes amis, ne laissons pas ce monde accaparer nos pensées au point de devenir amnésiques par rapport à la parole de Dieu. Tout ce que nous croyons découle de la parole de Dieu, de ce que Dieu a révélé. Mais parfois, il nous arrive, et c'est vrai, nous l'avons dit aussi un peu plus tôt dans le culte, parfois, il nous arrive d'être oublieux. Et il faut nous l'avouer, c'est assez grave en fait. Parce qu'il n'y a pas un seul jour où nous arrêtons d'être chrétiens. Ne laissons pas ce monde accaparer nos pensées au point de devenir amnésiques par rapport à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Nous avons reçu de Dieu une vie nouvelle. Ce qui ne veut pas dire une vie tranquille, mais une vie nouvelle. Nous avons reçu de Dieu une espérance qui ne déçoit pas. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Nous le verrons quant à l'avenir. Et nous attendons cet héritage qu'est notre salut final au moment de la fin, quand Jésus, notre Sauveur ressuscité, reviendra. Comment suis-je certain de tenir jusqu'au bout ? Parce que Dieu qui m'a donné la foi me garde par sa puissance. Et qui est plus fort que Dieu pour m'arracher de sa main ? L'apôtre Pierre ne commence pas par citer les épreuves que ses destinataires connaissent, mais il commence par leur rappeler leur identité et les privilèges qui y sont attachés. Et bien sûr, toute la louange revient à Dieu qui a été si bon et si compatissant envers nous. Et c'est après avoir dit tout cela que Pierre évoque l'épreuve de la foi. Et nous allons nous intéresser aux versets 6 et 7. Les versets que nous venons d'évoquer à l'instant nous rappellent notre vie nouvelle, nous rappellent notre salut qui nous viennent tous deux de Dieu. Notre vie nouvelle, notre salut nous viennent de Dieu. Et ce sont des raisons amplement suffisantes pour nous réjouir. Et c'est exactement ce que Pierre écrit au verset 6. Voilà ce qui fait votre joie. Après avoir dit tout cela, tout ce que je viens d'évoquer, les bénédictions qui nous viennent de Dieu, voilà ce qui fait votre joie. Littéralement, c'est à cause de cela que vous êtes remplis d'allégresse. Et avant d'en venir à la suite, faisons juste le test suivant. Qu'est-ce qui fait ma joie ces temps-ci ? Qu'est-ce qui est source de ma joie en ce moment ? Est-ce que cela correspond à ce que Pierre vient de dire depuis le début ? Mes privilèges en tant que membre du peuple élu par Dieu. Qu'est-ce qui fait ma joie ces temps-ci ? Et si je n'ai plus la joie du salut, où est-elle passée ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je n'ai plus cette joie ? Je pense à un chant qui mentionne cette joie du salut. Vous savez, quand nous chantons « Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré. » Vous connaissez ce chant ? Je pourrais l'entonner, mais je ne vais pas... Je suis dans la joie, et en plus on dit « Une joie immense, je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré. » Vous vous rendez compte de ce que nous chantons ? Est-ce que en ce moment, tu peux chanter de telles paroles en toute sincérité. Et assurément, il me semble que ce n'est pas un chant qui peut se chanter sans joie. Ça y est, vous avez passé le test. Mais le verset 6 ne s'arrête pas à la joie, puisque Pierre ajoute... La suite du verset 6, « Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Et je ferai deux remarques. Pierre, en disant « Même s'il faut », explique que c'est une nécessité de traverser ces épreuves. Et les commentateurs comprennent que cette nécessité découle de la décision de Dieu. Pourquoi ces épreuves ? Parce que Dieu l'a décidé. Et la suite du texte nous montre comment Dieu utilise ses épreuves dans la vie des croyants. Et nous pouvons être sûrs que cela va toujours dans le sens de notre bien. Toujours. Et deuxième remarque, donc la première remarque étant, il faut que ces chrétiens passent par la souffrance. Mais deuxième remarque, Pierre dit « pour un peu de temps ». Ces épreuves ont une durée limitée. Ce qui nous rappelle que c'est Dieu qui décide de la durée de nos épreuves. Dieu décide de la durée de nos épreuves. Précisons maintenant que ce texte ne s'applique pas à toutes les souffrances. Ici, et à la lecture de l'ensemble de la lettre, nous comprenons que Pierre nous parle probablement des épreuves qui viennent pour ébranler la foi. C'est de ces souffrances-là dont on parle ici, et non pas des conséquences fâcheuses qui découlent de nos péchés. Les épreuves dont il est question renvoient donc à ce que les chrétiens d'Asie mineure devaient subir de la part de leur entourage. Ce que nous lisons dans la suite de la lettre de Pierre, ce sont moqueries, rejets, incompréhensions, calomnies. Et à ce moment-là, nous n'étions pas encore à l'époque où de fortes persécutions allaient être organisées par le pouvoir en place. C'était encore une persécution qui concernait l'entourage. Et en cela, la situation de ces chrétiens à l'époque de Pierre est assez similaire à ce que nous pouvons aussi connaître de nos jours, sur notre lieu de travail, au sein de notre propre famille, ou même parfois dans notre voisinage. Oui, nous pouvons connaître aussi cette forme de persécution. Et Pierre déclare de manière très directe les conséquences du choix de suivre Jésus. Les chrétiens sont accablés par toutes sortes d'épreuves. D'ailleurs, l'apôtre Paul, qui écrit une lettre à Timothée, en 2 Timothée chapitre 3, verset 12, eh bien, il écrit ceci: « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ce n'est pas nécessairement une promesse, mais c'est l'idée, qui c'est une suite logique. Si nous vivons tellement pour notre Dieu au point de vivre une vie différente de celle de ce monde, nous finirons par être persécutés, d'une manière ou d'une autre. Ne soyons pas étonnés de connaître le rejet, la moquerie, l'incompréhension en raison de notre foi en Christ. Et nous nous souvenons que Jésus, notre Seigneur, n'est pas passé par un autre chemin. Lui aussi a connu le rejet, les insultes, les coups, l'hostilité de ceux qui ont voulu sa mort. Et notre Seigneur se tient à nos côtés et sait, pour l'avoir vécu, ce que nous traversons. Et ce que, bien sûr, d'autres frères et sœurs dans le monde traversent. Il le sait. Lisons ensemble verset 7. Celles-ci, c'est-à-dire les épreuves, servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Et dans l'Antiquité et encore aujourd'hui, lorsqu'on veut révéler la bonne qualité d'un alliage, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on soumettait les métaux à l'épreuve du feu. D'ailleurs, vous avez eu quelques images dans la vidéo aussi. L'or était chauffé notamment à plus de 1000 degrés dans un creuset. De cette manière-là, l'or pouvait fondre et les impuretés pouvaient remonter à la surface. Et comme aujourd'hui, l'or a une valeur certaine, mais il existe quelque chose de plus précieux que l'or aux yeux de Dieu, la foi qui a résisté à l'épreuve. Ainsi, quand Pierre dit que notre foi est plus précieuse que l'or, il nous explique que c'est seulement en passant par l'épreuve du feu que nous pourrons réellement voir la valeur de notre foi. C'est en étant éprouvé qu'on constate quelle est la véritable valeur de notre foi, la véritable nature de notre foi. Est-ce que nous faisons semblant ou est-ce que cette foi est vraiment authentique? Eh bien, l'épreuve le dira. Et les difficultés par lesquelles nous pouvons passer, et en particulier lorsque nous sommes persécutés, eh bien, révèlent la qualité de notre engagement et de notre confiance en Jésus. Le feu, image pour l'épreuve, élimine tout ce qui nous empêche d'être pleinement consacrés à Christ. Et nous avons besoin de ce feu. Nous avons besoin que Dieu nous éprouve. Parce que notre foi est tellement imparfaite. Parce que nous avons encore besoin de progresser dans notre foi. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une foi médiocre ou légère. Dieu, en tout cas, a l'intention d'éprouver cette foi. Et si en ce moment nous connaissons une certaine forme d'épreuve, de persécution, à cause de notre appartenance à Christ, si nous passons par le feu de l'épreuve, soyons encouragés par ce que Dieu dit par l'apôtre Pierre. Votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Et nous devons entendre cette parole de vérité alors que nous vivons dans une société marquée par le consumérisme et grandement préoccupée par la question du pouvoir d'achat. Il y a plus important que l'or et l'argent. Il y a plus précieux que cela, la foi éprouvée par l'épreuve. Et nous devons entendre cela parce que notre société est pleinement marquée par le consumérisme et grandement préoccupée par la question du pouvoir d'achat. Il y a plus précieux que cela. Et en aucun cas, nous devons penser que Dieu permet ses souffrances pour nous punir. Et tout à l'heure, quand vous allez entendre quelques témoignages encore de nos frères et sœurs, ce n'est pas pour les punir qu'ils souffrent ainsi. Mais nous avons du mal avec cette idée-là, que souffrir n'est pas synonyme de punition. Plus loin dans sa lettre, l'apôtre Pierre écrit au chapitre 4, verset 16, « Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, que quelqu'un souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. » Si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte. Ce n'est pas une punition de la part de Dieu. C'est l'épreuve pour sa foi. Et comme nous l'avons vu dans la vidéo, certains de nos frères et sœurs ont été fortement éprouvés, mais leur foi en Christ n'en a été que plus grande. C'est ça le résultat de l'épreuve. C'est ça qui doit en ressortir quand on passe par des épreuves. Et telle est l'histoire de Gédéon, vous avez entendu son témoignage, ce chrétien d'Érythrée qui a été emprisonné avec quelques membres de sa communauté. Gédéon qui est à présent responsable d'église, enfin qui l'était aussi, et qui est resté en prison pendant 6 ans et demi. Et il avoue, vous l'avez entendu aussi dans la vidéo, il avoue que cette expérience a été traumatisante pour lui. Et je pense que pour chacun d'entre nous, ça aurait été le cas. Mais en même temps, voici ce qu'il dit. « Quand je regarde en arrière, je vois que Dieu m'a fait grandir grâce à la prison. Oui, l'Église grandit. La persécution ne fait pas diminuer la puissance de Dieu. » Voilà ce qu'il dit, après avoir vécu 6 ans et demi en prison et en travail forcé. Pour Gédéon, cette épreuve de la prison a eu un terme. Il a été affligé pour un peu de temps. Mais désormais, sa foi épurée a plus de valeur que tout l'or du monde. Alors que ce témoignage nous encourage aussi à tenir bon, à continuer à avoir confiance en Christ malgré le rejet, malgré les moqueries, malgré les insultes et toute la peine que cela nous inflige. D'autres passent par là, en ce moment même. Et si, parfois, dans une certaine mesure, nous pouvons passer par cela, par là, soyons encouragés par le fait que nos frères et sœurs tiennent. Le thème de l'épreuve sera encore développé dans la suite de la lettre de Pierre. Mais notre texte, aujourd'hui, se termine par une touche positive, grâce à l'espérance de ce qui nous attend et grâce à la joie qui nous habite. Il faut souligner quand même quelque chose, c'est que certains de nos frères et sœurs persécutés, mais aussi certains membres dans nos églises, ne voient pas la fin de leur souffrance ici sur terre. Parce que parfois, cela finit par la mort. Donc ils ne voient pas forcément la fin de leur souffrance ici-bas. D'autres, par contre, sortent de la tempête et peuvent ainsi témoigner du travail que Dieu a accompli en eux, grâce aux épreuves. Et comme cette chrétienne sri-lankaise, qui s'appelle Rebecca, et qui est littéralement passée par le feu de la persécution. Et elle figurait aussi dans la vidéo, mais elle n'a pas raconté son histoire, et je vous la raconte brièvement. Ça se passe en 2019, à Pâques, un dimanche. Elle était donc dans son église, cette Rebecca, au Sri Lanka. Et Pâques, c'est censé être une fête joyeuse. On fête le fait que Christ est ressuscité. Eh bien, cette fête a tourné au cauchemar lorsqu'un terroriste kamikaze, qui portait des explosifs, a pénétré dans le bâtiment. Trois églises et des hôtels ont été ciblés en même temps ce jour-là, faisant plus de 250 morts et des centaines de blessés. Et Rebecca a été brûlée au troisième degré. Sa sœur, son beau-frère et son neveu ont été tués. Et malgré cette épreuve terrible, tous ceux qui connaissent Rebecca, tous ceux qui la côtoient, ont constaté qu'elle fait preuve d'un courage extraordinaire. Et voici ce qu'elle déclare après cette épreuve. « J'ai tellement de paix dans mon cœur. Je sais que Dieu fait tout pour notre bien parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. » C'est assez incroyable d'entendre qu'une personne qui était près de frôler la mort à cause de cet attentat puisse dire « Je sais que Dieu fait tout pour notre bien parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. » Et en avril dernier, pour avoir des nouvelles peut-être plus réjouissantes, elle s'est mariée avec le fils d'un pasteur. Et elle subit encore des opérations chirurgicales. Les circonstances horribles qu'elle a pu vivre, et on peut vraiment essayer d'imaginer, n'ont pas altéré sa foi en Dieu. Au contraire. Et sa relation avec son Sauveur s'est encore approfondie. Et même si nous passons par l'épreuve de notre foi, notre espérance est intacte. Notre espérance est vivante. Regardez la fin du verset 7. La foi éprouvée vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Habituellement, dans les Écritures, louange, gloire et honneur sont des mots que nous employons pour Dieu. Mais ici, vous constatez que ces trois mots sont utilisés pour les croyants. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur. Dieu travaille notre foi par les épreuves. Dieu nous donne la force de tenir ferme. Dieu nous donne la force de supporter le feu de l'épreuve, comme il l'a fait pour Gédéon et pour Rebecca. Et comme l'indique un commentateur, c'est Dieu qui évaluera notre foi. Et la louange dont il est question ici renvoie sans doute à son approbation. Oui, Dieu nous dira de nouveau combien il nous approuve. Tandis que gloire et honneur sont les privilèges auxquels nous aurons droit, auxquels nous aurons part quand Christ reviendra. Et quand je vous dis cela, louange, gloire et honneur, cela peut nous paraître vraiment lointain. Et pas forcément très concret. Mais si nous regardons notamment à la dernière page de la Bible, cet avenir glorieux est magnifiquement décrit. Et je retiens juste ce dénouement que nous lisons dans Apocalypse chapitre 22, verset 5. « Et ils, Dieu et son peuple, régneront éternellement. » La Bible se termine ainsi. Enfin, il y a d'autres versets encore après ce verset 5, mais Dieu et son peuple régneront éternellement. Gloire et honneur, c'est ce qui nous attend. Mais il faut pour cela que notre foi continue de progresser. Que notre foi soit encore éprouvée par les épreuves. Parce que nous, vous et moi, nous n'avons pas fini de progresser dans notre foi, dans la confiance que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous arrive encore de douter, il nous arrive encore de flancher. Notre foi n'est pas encore totalement solide. Et justement, concernant Jésus, verset 8, « Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut, qui est le but de votre foi. » Pierre encourage ses destinataires en leur parlant de celui en qui ils ont cru. Il y a ici, c'est vrai, un mystère au verset 8. Bien qu'attristés par diverses épreuves, ces chrétiens sont remplis d'une joie qualifiée de glorieuse et inexprimable. Pierre revient sur cette idée de joie. Oui, des chrétiens joyeux, ça existe. Et des chrétiens persécutés qui sont joyeux, ça existe. Ce n'est pas incompatible. Et Pierre décrit une réalité qui est aussi la nôtre. Nous aimons Jésus alors que nous ne l'avons pas vu. Et nous croyons en lui en sachant que nous le verrons un jour. C'est comme ça que nous vivons notre foi ici-bas. Nous vivons sans l'avoir vu, mais nous croyons en lui en sachant que nous le verrons. Et nous pouvons évoquer le témoignage de Manga, un jeune chrétien du Nigeria qui continue d'aimer et d'avoir foi en Jésus malgré ce qu'il a vécu. Et là aussi, je voudrais avertir que c'est un témoignage difficile que je relate. Manga a été agressé par Boko Haram, ce groupe extrémiste au nord du Nigeria, et son père a été tué sous ses yeux. Et il nous raconte son histoire. Voilà comment ça s'est passé. Ma mère et les plus jeunes enfants étaient dans la maison. Les assaillants nous ont emmenés hors de notre terrain, mon père, mon frère et moi. Après nous avoir attaché les mains dans le dos, ils ont essayé de nous ouvrir la gorge avec un couteau. Ils ont décapité mon père. Ils ont séparé sa tête de son corps. Ils sont ensuite passés à mon frère. Très vite, il a fait semblant d'être mort et ils l'ont laissé. Moi, à cause de la douleur insupportable que je ressentais d'avoir vu mon père être décapité, je me suis débattu. Et quand ils ont vu que j'avais des coupures partout au niveau du cou, ils ont pensé qu'en quelques instants, j'allais me vider de mon sang et ils sont partis. Dieu a eu pitié de moi. Nous avons vécu ce drame parce que nous sommes chrétiens. Ils essayent de nous avoir à l'usure, de nous tuer et de s'emparer de nos biens. Ils nous ont demandé de renier notre foi et de nous tourner vers l'islam. Notre père a refusé. Pour lui, rien n'avait plus de valeur que vivre pour le Christ. Et il croyait que la mort était un gain. Il n'a pas renié tout ça, même au moment de sa mort. Il était comme ça, notre père. Les terroristes nous ont alors demandé à mon frère et moi de renier notre foi et nous avons également refusé. J'ai dit que je ne renierais pas Jésus, que si je devais mourir, ce serait comme mon père en chrétien. Ils ont répondu, alors on va vous tuer. Mais nous sommes toujours vivants pour attester de la gloire de Dieu. Quand nous pensons à Jésus que nous aimons, quand nous pensons au salut qu'il nous a accordé par grâce, il y a vraiment de la place pour la joie dans notre vie ici-bas, dans notre quotidien. Une joie que beaucoup de nos contemporains ne connaissent pas tant qu'ils n'ont pas pris conscience du Sauveur merveilleux que nous possédons. Le témoignage de Manga et celui de ces chrétiens de l'époque de Pierre nous montre qu'aucune épreuve aussi dure, aussi intense soit-elle, ne peut éteindre cette joie du salut, glorieuse et inexprimable à la fois. Aucune épreuve ici-bas ne peut éteindre cette joie. Même s'il fallait voir nos proches mourir sous nos yeux. Oui, parfois, souvent, nous ne vivons pas cette joie car nous sommes pris par les soucis du quotidien et de ce monde. Souvent, ce sont les trésors de la terre qui nous procurent plus de joie. Mais nous ne parlons pas de la même chose. Nous ne parlons pas d'une joie éphémère qui répond à l'instant, mais d'une joie que l'Esprit Saint produit en nous. Et lorsque de nouveau nous nous attachons à Jésus, lorsque de nouveau nous nous souvenons de notre salut à venir, la joie refait surface. Y compris dans l'épreuve de notre foi. Frères et sœurs, dans ce que vous vivez en ce moment, et notamment si les gens s'en prennent à vous parce que vous êtes à Christ, laissez Dieu vous parler encore cet après-midi par ce texte. Avant de parler d'épreuves, Pierre a d'abord parlé de l'identité chrétienne et des privilèges qui sont les nôtres, grâce à Jésus-Christ. Nous avons été choisis. Nous sommes nés à une vie nouvelle. Nous avons une espérance vivante, celle d'un héritage qui ne peut pas être détruit. Nous sommes gardés par Dieu alors qu'il nous conduit vers notre salut à venir. Tout cela est source de joie, même si nous connaissons la tristesse pour un peu de temps à cause des épreuves. Mais tout cela est source de joie. Et nous savons que Dieu agit en notre faveur, en travaillant notre foi, tel un forgeron qui veut purifier l'or. Il le fait et il le fait parfaitement bien. Et malgré l'épreuve, l'espérance et la joie demeurent, comme chez nos frères et sœurs persécutés. Et je termine par ces paroles de l'apôtre Pierre. Vers la fin de cette lettre, au chapitre 4, et versets 12 et 13, nous lisons ceci. « Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Amen. » Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce pour ta parole, pour toi qui nous parles encore cet après-midi. Merci Seigneur parce que, c'est vrai, nous ne comprenons pas toujours à quel point l'épreuve sert à révéler la valeur de notre foi. Certes, nous avons encore à grandir, à progresser dans cette foi, dans cette confiance en toi. Mais au moins, Seigneur, nous savons que tu te tiens à nos côtés. Nous savons que nous sommes gardés dans ta main, gardés jusqu'au bout, jusqu'à ce salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Et en attendant cela, Seigneur, nous voulons encore nous préparer, rester attachés à toi, rester attachés à Christ que nous aimons même sans l'avoir vu. Christ en qui nous croyons, sans le voir encore. Mais merci pour l'espérance que tu places dans notre cœur. Merci pour la joie de notre salut, qui est une joie authentique, une joie qui est même présente au cœur de l'épreuve. Seigneur, merci encore pour le témoignage de ces frères et sœurs qui sont passés par des choses bien plus difficiles que ce que nous pouvons connaître à l'heure actuelle. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu les as gardés, de telle sorte qu'ils tiennent bon, de telle sorte qu'ils peuvent nous rendre un témoignage qui nous encourage et qui nous permet aussi d'avancer à notre tour, de nous dire que même si nous ne sommes pas persécutés comme eux, eh bien, nous croyons en un même Sauveur. Et nous sommes les uns et les autres appelés à pouvoir embrasser pleinement cette espérance que tu nous as donnée, une espérance vivante et qui nous est garantie parce que Christ est ressuscité. Alors à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange, même si tu nous permettras effectivement aussi d'avoir part à tout cela, à tes côtés pour l'éternité. C'est notre espérance. Au nom de Jésus. Amen.